Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Lille sur le 106,6 de la bande FM et en DAB+. C'est l'émission Palude numéro 902, consacrée de 11h à midi à notre 673e arrache-cœur, présentation de quelques nouveautés littéraires. Au programme et sous réserve d'imprévus négatifs, je présenterai aujourd'hui d'Alessandro Mercuri aux éditions Art et Fiction Hollywood, volume 1, Guadalupe, California.
Can you tell me where King Tutut and Kamin-Zoom is?
3,000 years ago, in history we know,
King Tut and Kamin ruled a mighty land.
He ruled for many years, mid lots of song and tears.
He made a record that will always stand.
Tout a disparu. Enfoui sous le sable, les vestiges ont sombré dans l'oubli. Seules quelques traces affleurent au sommet des dunes, l'écume, les embruns, les ruines d'un temple égyptien, quelques bas-reliefs aux contours effacés. Bercé par les vagues, l'antique cité de Ramsès II gît sous le sable au bord du rivage. Les vestiges pharaoniques flottent dans les limbes d'un souvenir lointain, si lointain qu'on les croirait bercés par ces mêmes vagues qui les berçaient de toute antiquité. L'éternité échouée sur une plage, ou plutôt cachée sous une plage, des ruines assoupies rêvent de vagues peuplées d'otaries et de surfeurs. Otaries et surfeurs sans queue ni tête, extravagante rêverie. Car l'antique cité de Ramsès II repose sur la plage de Guadalupe au bord de l'océan Pacifique, à quelques centaines de kilomètres au nord-ouest de Los Angeles. Un mirage au bord du rivage? Un pharaon californien? C'était il y a plus de 3000 ans, à 12 000 kilomètres de Guadalupe et au cœur du nouvel empire égyptien, durant le règne du troisième pharaon de la 19e dynastie. Vers l'an 1250 avant Jésus-Christ, Ramsès II fit bâtir une cité dans le delta du Nil, surnommée la ville turquoise. Trois millénaires plus tard, la cité rejaillit des sables dans le style californien années 20 du nouvel empire hollywoodien. Ce sont les ruines d'un décor de peplum, d'un âge d'or du cinéma. Ici, en 1923, sur la plage de Guadalupe, Cécile B. DeMille a réalisé « Les Dix Commandements » et transformé une plage californienne en désert du Sinaï. Le film était muet, les vagues s'échouant sur la plage au bord du décor demeuraient silencieuses. Puis le sel, le vent et la pluie ont effacé ce mirage. Les temples, les obélisques, les colosses de pierre, les allées de sphinx et les pyramides ont disparu sous les dunes de sable. Enfoui sous le rivage, un site archéologique cinématographique est né. À l'orée du troisième millénaire, au début du XXIe siècle, je partis à la recherche des souvenirs du pharaon échoué sur la plage de Guadalupe. Quelques mois plus tard, à l'autre extrémité du continent, au bord de l'océan Atlantique, une catastrophe survint. Une nouvelle image de décombre effaça les ruines antiques hollywoodiennes, des ruines fumantes de béton, d'os et d'acier. Ce fut comme une éclipse temporelle. Le XXIe siècle naquit un 11 septembre. Pour la première fois de son histoire, le calendrier grégorien trébucha. Comment la marche impassible du temps put-elle se troubler? De quel trébuchement s'agit-il? L'incident est cosmique. L'histoire se déroule au cœur du système solaire. En 46 avant Jésus-Christ, le soleil vainquit la lune. Jules César remplaça le calendrier lunaire par le calendrier julien, établi sur la position du soleil en mouvement sur la sphère céleste. Mais entre Rome et le soleil, un léger décalage persista. L'année solaire et l'année calendaire se décalèrent de 11 minutes par an, un jour tous les 134 ans, l'écart se creusant de 8 jours par millénaire. Les siècles passèrent. En l'an 1582, le calendrier julien retarde de 10 jours. L'orthodoxie de la foi est en péril. La date de Pâques, le jour de la résurrection du Christ, s'éloigne dangereusement de l'équinoxe de printemps. D'ici la fin des siècles, les fleurs écloront en automne, il neigera en été et les feuilles mortes tomberont en printemps. Quand soudain une bulle papale éclate dans les cieux, l'heure est grave, très grave. Inter gravissimas est le titre de la bulle pontificale du pape Grégoire XIII, daté du 24 février 1582. Il y est écrit: afin de maintenir entre les nations chrétiennes l'harmonie dans la célébration des fêtes, tous les défauts du calendrier pouvaient être corrigés d'une manière cohérente et qui durerait jusqu'à la fin des siècles, de telle sorte qu'ils ne paraissent plus susceptibles de varier à l'avenir. Ainsi soit-il. Voilà le tout début de l'ouvrage d'Alessandro Mercuri paru aux éditions Art et Fiction dans la collection Shush Larry. Le titre Hollywood, attention avec un H, volume 1, Guadalupe, California. Alors, vous l'avez entendu, on se trouve à Los Angeles, sous les sunlights d'Hollywood. C'est ici, évidemment, un jeu qui va se développer tout au long du texte entre ce Hollywood auquel se réfère constamment Alessandro Mercuri et le choix de son titre, Hollywood, avec l'idée du bois sacré. Il s'agit bien évidemment de se replonger dans ce film mythique de l'année 1923 qui sont les 10 commandements de Cecil B. DeMille, dont il fera d'ailleurs un remake en 1956. Et c'est avec Charlton Heston qui est beaucoup plus connu cette version. Mais c'est la version de 1923 qui intéresse ici Alessandro Mercuri et qui va nous proposer de l'accompagner dans cette enquête. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de présenter plusieurs textes d'Alessandro Mercuri. On sait son goût pour, je ne dirais pas la fabulation, mais un jeu constant avec ce qui paraît être le faux-semblant ou la fake news, en tout cas l'idée que... il y a des enquêtes à mener derrière tout ce qui se présente à nous, toutes les informations qui ne cessent de circuler. Ici, ce film de 1923, réalisé par Cecil B. DeMille, une super production gigantesque, incroyable, dont on aura d'ailleurs l'ensemble des chiffres cités par l'auteur. Cette reconstruction de la ville de Ramsès II qui a disparu sous le sable de la plage de Guadalupe en Californie, c'est l'occasion non seulement d'une plongée dans les archives cinématographiques, dans ce monde incroyable du faux-semblant où le carton-pâte remplace la réalité de ce qui s'est produit effectivement en Égypte, mais c'est aussi une plongée qui va tous azimuts avec Alessandro Mercuri parce qu'il se plaît à connecter un milliard de choses les unes avec les autres et à nous entraîner de manière extrêmement convaincante dans ce maillage qu'il ne cesse de tresser sous nos yeux. Et vous l'avez entendu, par exemple, dans l'extrait que je vous ai lu, on part très rapidement vers d'autres choses. Le calendrier julien, le calendrier grégorien apparaissent dans cette note numéro 2. Les notes sont un élément essentiel, d'ailleurs, du texte. Ils creusent eux aussi. Les notes creusent le texte, vont plonger plus loin que les apparences afin de petit à petit construire toute l'interprétation paranoïaque critique, ai-je envie de dire, de Hollywood. Août, volume 1, Guadalupe, Californie. Alors, il serait impossible de vous dire l'ensemble des thèmes qui sont abordés, qui sont extrêmement variés. Vous y croiserez bien évidemment le milieu du cinéma, et Cecil B. DeMille est le protagoniste essentiel de cet ouvrage. Mais on croise en plus du monde du cinéma et de tout ce qui a construit Hollywood avec tout son jeu autour de la censure et de la lutte contre celle-ci, de ce monde de paillettes et de miracles qui ne recule jamais devant la dépense lorsqu'il s'agit d'obtenir satisfaction, mais qui en même temps est de plus en plus soumis au contrôle incessant des financiers. Cecil B. DeMille contournera habilement ce contrôle pour pouvoir réaliser son rêve, cette super production pharaonique. Et il y a en même temps derrière tout cela, tout un monde lié à ce narrateur dont je ne sais s'il faut évidemment le confondre avec Alessandro Mercuri, mais en tout cas il a pour projet de réaliser une sorte de documentaire qui va tourner autour des extraterrestres. Et voyez comment, voilà, on commence déjà à partir dans des directions incroyables. C'est un monde qui se déroule sous nos yeux, un monde qui se construit au fur et à mesure des interprétations d'Alessandro Mercuri, de la manière dont il agence chacun de ces éléments pour petit à petit nous mener exactement là où il veut. Et c'est le système de notes qui est sans doute le plus étourdissant, le plus vertigineux, parce qu'il va véritablement creuser la réflexion et l'interrogation dans chacun de ces textes. Alors c'est également accompagné de très nombreux documents iconographiques, de photographies liées au monde du cinéma, à la géographie hollywoodienne, à tout ce qui constitue cet univers qui s'est construit avec des retours sur l'histoire, bien évidemment, sur les bâtiments emblématiques de ce monde d'Hollywood, de Los Angeles, de parcs qui seraient censés être des lieux magiques, recelant des trésors qu'il resterait à découvrir. On croisera aussi beaucoup d'éléments littéraires qui vont petit à petit apparaître. On y croisera bien évidemment l'armée, avec la reconstruction assez incroyable d'un bateau militaire destiné à l'entraînement des troupes américaines. Enfin, vous voyez que la curiosité, l'inventivité d'Alessandro Mercuri n'a pas de limite et à l'instar finalement de ce que l'on peut faire désormais sur Internet avec tous ces sauts permanents qu'on peut effectuer d'une page à une autre et d'un élément à un autre en croisant des thèmes de façon tout à fait désordonnées a priori, mais qui n'ont finalement comme seul vecteur que d'être le lancement initial d'un projet et qui se déroule sous la main et sous la coupe de celui qui l'a initié. Ici, sous la férule d'Alessandro Mercuri, on voit et on se demande parfois comment il va retomber sur ses pieds. On voit se dessiner, je le disais, tout cet entrelacement, ces perspectives, et qui se rejoignent à la toute fin pour construire la réflexion autour de la Californie, de ce développement de Los Angeles, la manière dont la Californie a été vendue par les Mexicains, comment elle est devenue américaine, tout ce qui a construit petit à petit et fortifié ce désert pour en faire le lieu même du mirage. Mirage bien évidemment lié au cinéma, mais également à ce qui s'est désormais enfoui sous le sable et qui ne demande qu'à être redécouvert dans une prospection archéologique qui ferait ressortir de terre ces décors de carton-pâte qui ont été ensevelis en 1923 après le film de Cécile B. DeMille. Voilà, je suis moi-même assez décousu, je m'en rends bien compte, mais c'est le texte qui le veut. En tout cas, vous y prendrez grand plaisir, sans doute comme moi, qui me suis laissé véritablement envahir par cette lecture et qui est gravi et descendu les échelons que nous propose Alessandro Mercuri, et notamment ces notes vertigineuses et incroyables qui, dans une certaine mesure, m'ont fait parfois penser au texte de Raymond Roussel, qui lui jouait des parenthèses qui s'ouvraient les unes dans les autres jusqu'à vous faire vous éloigner de plus en plus du texte, mais pour mieux y revenir, chargé de tout un nouveau savoir, toutes ces connexions qui s'interpénètrent. C'est un monde qui se déroule et qui se découvre sous vos yeux. Enfin, je vous invite donc à parcourir ce premier volume qui sera suivi d'un deuxième consacré également à une ville de Guadalupe, mais cette fois-ci mexicaine. Le premier volume, Guadalupe, California, Holy Hood, d'Alessandro Mercuri, est disponible aux éditions Art et Fiction.